toca a ti, toca a ti. Toca a ti.
Bonsoir. Au sommaire de la tribune de la presse de ce soir, trois thèmes. Bilan de l'opération d'enregistrement des candidatures pour la présidentielle et les législatives. Ceci à deux jours de la clôture de cette opération par la Commission électorale indépendante. Création d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de juger les crimes commis avant et après 2002. L'idée est de Mgr Laurent Mosengo-Pasinya, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Regard sous la rencontre de Joseph Kabila de Sassou Nguesso, mardi dernier à Brazzaville, en République du Congo d'en face, pour analyser ces trois faits d'actualité de la semaine, trois confrères. Pascal Moulunda, éditeur du journal Le Moniteur de Goma, au Nord Kivu, mais qui est avec nous dans ce studio, Benoît Kambéré, journaliste à la revue catholique Renaître, et John Gombois, journaliste Antenna, une chaîne de télévision privée de Kinshasa. Le dépôt des candidatures à la présidentielle et à la députation nationale se poursuit. Au jour d'aujourd'hui, la CEI parle de 3290 candidatures enregistrées à la députation et 50 à la présidentielle. Par ailleurs, la CEI a confirmé hier jeudi le début du dépôt des candidatures à la députation provinciale pour le 10 avril prochain. Alors on commence par vous, Benoît Kambéré. Au début de la semaine, on n'avait pas ce chiffre, et même bien avant la prolongation de cette période d'enregistrement de candidatures, aujourd'hui c'est quand même un nombre assez élevé, 3290 candidatures pour la députation sous les 500 sièges à pourvoir et 50 candidats pour la présidentielle. Il y a quand même eu une évolution, n'est-ce pas?
Oui, évolution, on peut dire. Il y a même pléthore dans certains cas. À titre d'exemple, à la présidentielle, une demi-centaine de candidats, ça me paraît trop.
Pourquoi?
Tout simplement, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Il y a des candidats qui n'en sont pas. Il y en a qui, à mon sens, sont là pour concourir, juste pour se faire remarquer, parce qu'ils sont sûrs d'avoir moins de 1% de suffrage, et avec l'immensité de ce pays, où la campagne, la loi électorale prévoit seulement un mois de campagne, je ne vois pas, parmi les 50, 10, qui sont à même de faire le tour de la République démocratique du Congo pour battre campagne, ça c'est un, et des illustres inconnus qui sont juste rentrés au pays pour se faire remarquer, et d'autres, on l'a vu lors de l'élection entre guillemets du vice-président vice-président de la composante dite opposition politique, il y en avait qui se sont juste positionnés. En fait, ils voulaient avoir un poste, un strapontin de ministre en se positionnant comme candidat vice-président. Et là, c'est apparemment avec la médiocrité de la classe politique que nous avons dans notre pays, il y en a qui se positionnent pour se faire remarquer et au besoin monter les enchères quand il faudra, entre guillemets, monnayer sa place. On sait que on ne fait pas le poids comme candidat président de la République, mais quand il faudra négocier, on peut s'en sortir avec un poste de ministre, voire vice-ministre, pourquoi pas, et on peut se contenter de ça en montant les enchères.
Mais est-ce qu'on peut prendre ce risque-là en payant quand même une somme colossale de 50 000 dollars rien que pour un poste ministériel?
Il se dit, on sait comment les postes ministériels dans notre pays sont juteux, et il se raconte même dans la ville que les 50 000 dollars que certains sont en train de déposer à la CEI via la DGRAD sont en fait donnés par d'autres personnes plutôt que ces candidats eux-mêmes.
Pascal Moulunda, comment vous, à votre niveau, vous interprétez cette évolution des chiffres au niveau des candidatures à la commission électorale indépendante?
Nous l'avons déjà dit à l'émission précédente, la prolongation en tout cas est importante. Les résultats, vous les voyez, mais aussi, comme le confrère Benoît Kambéré vient de le souligner, est-ce que a-t-on respecté les conditions?
Lesquelles?
Ça veut dire à la condition d'éligibilité. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la CEI qui est habilitée à les faire, mais aussi l'organe qui est habilité à les faire. Est-il crédible? Bon, part, je pense que cette pléthore ou la plupart de ces candidats, c'est un fonds de commerce. Donc vous donnez, ce sont des calculs hein, pour certains opportunistes, hein. Vous payez 50 000 $ en cas d'une potentielle alliance, vous pouvez obtenir 100 000 $, même 200 000, ou bien si du moins l'argent pour la campagne y en aura, vous pouvez gagner beaucoup plus de ça. Donc vous voyez, vous lisez pour dans les chefs de la plupart de ces candidats. En tout cas, vous ne voyez pas l'idéal ou l'idée vraiment d'être président. Donc, ils cherchent un peu de moyens à travers les alliances, à travers les fonds de la campagne. Donc, c'est ce qui est plus ou moins préoccupant.
J'en viens à vous, John Ngomba. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la télévision privée Antenna ici à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait pléthore, comme venait de le dire Benoît et notre confrère Pascal Moulunda, notamment au niveau de la députation et de la présidentielle, bien sûr, vous pensez que cela est dû au calcul politicien? Peut-être que si certains candidats obtiennent un certain nombre de voix, par exemple à la présidentielle ou au deuxième tour, ils pourraient négocier pour obtenir des postes.
Bon, je pense que c'est plausible, hein, mais ce n'est pas peut-être le seul fait, dans la mesure où il est autorisé à tout Congolais qui dispose des moyens de pouvoir déposer sa candidature. Donc on peut considérer a priori que les candidatures étant ouvertes, les Congolais y vont. Et ce que moi je voudrais davantage relever, c'est le fait que si on s'en était tenu à 10 jours, mettons maintenant à peu près 8 jours avant, à la première date, eh bien on aurait raté, pour ce qui est par exemple législatives, on aurait raté à peu près 3000 candidatures parce que nous étions à 300 et quelques. Et donc, il y a aussi du bon pour ce qui est de la commission électorale indépendante, de tenir compte de l'environnement dans lequel elle se meut. Bon, pour ce qui est du reste, bon, j'estime que à ce niveau-ci, chacun y va selon ses propres motivations, par aventurisme, par affairisme ou par conviction. On laisse faire parce que bon, au fond, il y aura des élections qui vont trancher. Tout le monde a le loisir de se présenter.
Et vous pensez qu'au niveau de la présidentielle, 50 candidats, c'est trop, comme l'a dit Benoît?
Bon, disons que dans la configuration actuelle en République démocratique du Congo, ce n'est pas étonnant. Dans la mesure où nous avons plus de 400 et quelques partis, c'est pas 200 et quelques partis, voilà, selon le ministère de l'Intérieur. Donc si chaque parti
politique... C'est quand même un record,
oui,
c'est pas dans tous les pays du monde qu'on a 200 partis politiques.
Tout à fait. Exactement. Alors si chaque parti politique devrait présenter son candidat à l'élection présidentielle, on arriverait peut-être à 200 et quelques candidats. Donc ce n'est pas surprenant, ça tient en fait un peu de la culture politique chez nous ici. Je dis que déjà, nous ne sommes pas une démocratie rodée, où on retrouve les candidats selon les courants politiques, les grandes tendances politiques. Ici, chez nous, il y a beaucoup trop d'opportunistes et il est tout à fait normal qu'on ait ces résultats-là, en attendant que les choses se stabilisent et qu'on accède à un fonctionnement normal des démocraties. On retrouve 2-3 grandes tendances politiques qui présentent leur candidature.
Oui, Pascal Moulunda.
Je vais ajouter une chose importante, Claude. Donc la chose importante que je voudrais ajouter, c'est laquelle il ne faut pas que l'on puisse tolérer certaines antivaleurs parce qu'il faut aller aux élections.
C'est-à-dire
nous avons telle candidature, il y a telle formation politique qui ne s'est pas encore qui n'est pas encore impliqué dans le processus. Bon, allons aux élections quand même. Donc, je voudrais attirer l'attention de l'opinion nationale sur donc les élections n'est pas une panacée. Comme l'avait dit Didier Moumengi, il ne faut pas qu'on arrive aux élections sans démocratie, comme on a décroché ou arraché l'indépendance sans quitter la colonisation. Donc ça veut dire, ce n'est pas une aventure. Il faut planifier, il faut faire des choses dans les normes, mais pourvu qu'on fasse des élections crédibles, des élections à l'issue duquel on ne voudra plus enregistrer des revendications, des guerres, des mutineries. Donc, qu'on organise les élections et pas organiser les élections pour les élections. Donc, organisons les élections à bon escient.
Benoît Cambéré, je reviens à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la revue catholique Reconnaître. Le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante, Monsieur Bassengezi, a dit qu'il y avait beaucoup de candidatures au niveau du Kassai occidental, notamment. Est-ce que cela montre une certaine évolution de la situation dans cette partie du pays?
Non, c'est une allusion que j'ai trouvée malheureuse. Enfin, c'était peut-être pour expliquer. Et ça, c'est assez dommage que la commission électorale ne reste pas neutre pour expliquer quelque chose, pour justifier quelque chose de leur chef.
Qu'est-ce qu'ils veulent?
C'est-à-dire la non-ouverture, la non-réouverture des bureaux en ce qui concerne l'UDPS. Et on dit que les deux Kassai étant le fief naturel de l'UDPS, c'est un peu, d'après lui, ce qu'on peut lire dans ce qu'il dit, un démenti du fait que ça va bien se passer. Mais c'est peut-être mal lire les choses. La revue catholique Reconnaître a publié dans son dernier numéro les détails, à titre d'exemple, des résultats du référendum. J'aurais bien voulu qu'il fasse état du taux de participation qu'il y a eu dans les deux Kassai avant d'être triomphaliste à ce point. Et faire ces allusions-là. C'est vrai, il y en a qui disent, Pascal l'a dit tantôt, qu'ils veulent, on doit aller aux élections n'importe comment et dans n'importe quelle manière, c'est assez malheureux. Je voudrais, s'il te plaît, revenir sur le nombre, parce que ce qu'il a dit, entre autres, c'est qu'il y a aussi des endroits où il y a le nombre de sièges correspond au nombre des candidats. C'est-à-dire que les députés de ce coin-là vont passer d'office. C'est vrai, il y a des endroits où il y en a un plus, mais il y a aussi une chose, j'ai jeté un coup d'œil aux listes, mais je crois qu'on aura des précisions, il y a à peine une cinquantaine de partis. Pour revenir à ce que John a dit tantôt, on a certes 270 partis politiques répertoriés par le ministère de l'Intérieur, mais à peine une cinquantaine de partis qui prennent part à la compétition. C'est dire combien il y a des partis alimentaires et il y a des partis qui ne sont là que pour faire valoir. Ça, c'est un. De deux, maintenant, dire que non, au Kassai, il y a beaucoup de gens, comme ça, on peut y aller, c'est voiler la face, c'est faire même la politique de l'autruche. Ne pas chercher à résoudre le problème qui se pose, et malheureusement auquel on n'a pas encore trouvé de solution, on va vers un mur, à mon sens.
Voilà, je crois que la CEI l'a dit, qu'il n'y aurait plus de prolongation. Elle a même annoncé la date du début du dépôt des candidatures pour la députation provinciale, qui est prévue au 10 avril prochain. Mais à deux jours de la fin du dépôt des candidatures, il y a des grands partis politiques comme l'UDPS qui n'ont pas jusque-là déposé leur candidature. Comme il n'y aura pas probablement de prolongation, comme l'a dit la CEI, est-ce que cela ne pose pas un problème politique qu'un grand parti politique comme l'UDPS ne dépose pas ses candidatures?
Bon, je crois qu'il faudra aujourd'hui, hélas, se préparer à cette éventualité sérieusement, parce que tel qu'on voit le préalable posé par l'UDPS, et tel que je vois la réaction de ceux qui devraient, à qui était destiné ce message, il est très peu probable que ces préalables soient remplis. Donc, l'UDPS aura à se ranger ou bien à ne pas se présenter. Et j'ai comme l'impression quand même que l'UDPS, ou en tout cas son président national, Étienne Tshisekedi, risque de ne pas se présenter comme candidat. Alors en ce moment-là, si l'UDPS n'est pas présente aux élections, vont-elles être organisées ou non? Je crois que les élections vont être organisées parce que la logique qui sous-tend l'organisation de ces élections, j'ai comme l'impression que aujourd'hui, elle a décidé de ne pas faire grand cas de des positions du genre de l'UDPS. Donc on organise les élections sans l'UDPS, c'est sûr. Bon, maintenant, sur quoi allons-nous déboucher? Ça, je ne sais pas encore le dire. C'est à mon avis jusqu'à quand même une zone d'incertitude après les élections organisées, disons, sans des partis politiques comme l'UDPS. Mais ces élections, comme je l'ai dit tantôt, vont être organisées sans l'UDPS si ce dimanche, si l'UDPS n'a pas déposé ses différentes candidatures.
Voilà, Pascal Moulunda, je rappelle que vous êtes journaliste, éditeur du journal Le Moniteur de Goma, Nord Kivu, vous êtes ici avec nous dans ce studio à 2 jours de la fin du dépôt des candidatures. L'UDPS n'a toujours pas déposé ses candidatures. Apparemment, cela risque de ne pas se faire. Et qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence?
D'abord, l'un des objectifs de la transition, c'était, et le plus important, c'est la réconciliation. La réconciliation qui, jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire, on n'y est pas encore. Quand on parle de la réconciliation, ça veut dire que tout le monde se retrouve, qu'il n'y ait pas de gagnants, qu'il n'y ait pas de déçus. Nous sommes encore le vendredi. Les RCD déposent, en tout cas Roubaix-Roi dépose, sauf changement de dernière minute, dimanche. Il n'est pas exclu que Tshisekedi ne puisse pas déposer. Il serait déjà à Brazzaville. Nous allons y revenir quand nous allons parler du séjour du chef de l'État à Brazzaville.
Effectivement.
Donc,
il y a encore de l'espoir.
L'espoir est encore permis. Je voulais revenir sur la caution, en fait sur les candidatures entre guillemets pléthoriques.
Rapidement, s'il vous plaît.
Donc, est-ce que je me suis dit peut-être qu'on voulait obtenir beaucoup plus des moyens pour la caution. Et nous apprenons, nous avons appris selon certaines indiscrétions que cette caution, on aurait même acheté une télévision pour la campagne de beaucoup de candidats. Mais je me pose la question. Qui pourra gérer cette chaîne de télévision? Et sera-t-il neutre par rapport à tout ce qui viendrait avec leur campagne, tout ça? Donc c'est aussi un goulot d'étranglement par rapport aux élections.
Dernier intervenant avant de passer à un autre point, Benoît Kambere, à 2 jours de la fin du dépôt des candidatures, l'UDPS, la fille aînée de l'opposition, n'a toujours pas déposé ses candidatures. Alors, qu'est-ce que cela augure? Est-ce que vous êtes optimiste que d'ici 2 jours, l'UDPS pourrait peut-être déposer ses candidatures?
À vous dire vrai, non. Je ne suis pas du tout optimiste. Avec, en fait, excusez-moi, les préalables qu'a posé l'UDPS, qui n'a pas posé aujourd'hui, hein, qui a posé depuis longtemps, s'il y avait une volonté politique, si on doit passer par le président Sassou, par exemple, pour arriver à arrondir les angles, c'est malheureux. C'est des choses qui étaient tout à fait faisables il y a 6 mois, il y a 4 mois, il y a encore 2 mois, il y a encore un mois. C'était faisable, tout à fait faisable. Mais il n'y a pas de volonté politique. Il y en a qui veulent aller aux élections sans l'UDPS, ils l'ont obtenu, mais quelles élections? Est-ce que ces élections seront crédibles? Je me pose des questions.
Vous voulez dire par là que la crédibilité des élections en République démocratique du Congo dépend de la participation de l'UDPS seul?
Pas de l'UDPS seul. Entre autres, pour qu'une élection soit, comme on dit, honnête, crédible, transparente et inclusive, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies quand il était de passage ici, on devrait laisser concourir tout le monde, quelles que soient les conditions. C'est vrai, l'UDPS au début a boudé, mais on a vu que cette pression a fait que beaucoup de choses ont changé au sein de la CI, ont changé au sein de la classe politique, on a quand même tenu compte de ça, mais c'est des choses qui pouvaient, la réouverture pour 2 semaines n'aurait posé de problème à personne. Mais seulement, quand un poids lourd comme l'UDPS se met dans la balance, il y en a qui n'ont plus beaucoup de chance de se maintenir dans la course et ils sont sûrs d'être battus. C'est peut-être ça. Alors comme on ne veut pas, alors les préalables, comme c'est des gens de principe, les préalables ne sont pas respectés, ils ne se présentent pas. Et c'est quand même assez dommage, on aura jeté de l'argent comme ça pour arriver à quoi? Vous savez que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de légitimité. Si un pan de ce pays ne reconnaît pas les autorités qui vont venir après, bonjour la gloire.
Au début de cette semaine, c'est-à-dire le 28 mars 2006, le président Joseph Kabila rencontrait son homologue du Congo, Brazza, le président en exercice de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso. Ce dernier a notamment insisté justement de l'inclusivité du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, comme venaient de le relever les confrères ici. Mais quelle signification nous pouvons donner à toutes ces démarches du président du Congo d'en face et président de l'Union africaine? Denis Sassou Nguesso, c'est un réflexe de grand frère à petit frère, ou c'est tout simplement pour que si les choses ne marchent pas bien ici, cela pourrait avoir une incidence sur le Congo-Brazza du fait de la proximité de ces deux capitales les plus rapprochées du monde?
Vous savez qu'il y a ce principe des relations internationales qui dit qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. En fait, je pense davantage que le Congo-Brazzaville est motivé par les conséquences que peuvent donner des élections mal organisées en République démocratique du Congo. Nous savons que le pool Malebo peut être rapidement traversé, et l'instabilité à Kinshasa, c'est l'instabilité à Brazzaville, c'est connu. Voilà déjà une première motivation, mais une deuxième aussi, c'est que Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine, est aussi, si vous voulez, un leader africain, et que par rapport à ses exigences, il a un droit de regard sur ce qui se passe dans le pays. Bon, ceci dit, il comprend sûrement que les élections, le processus électoral manque un peu de quelque chose du fait du problème que nous avons évoqué ici, de l'UDPS qui botte en touche ou qui s'est auto-éjecté, c'est comme on veut, mais toujours est-il qu'il est conscient que bon, ça ne va pas aller très très bien si ces partis politiques restent en marche.
Mais est-ce que l'Union africaine peut vraiment peser sur le processus actuel, d'autant plus qu'il a suivi le processus de paix en République démocratique du Congo depuis l'accord de Lusaka, de cesser le feu de Lusaka, jusqu'à la conclusion de l'accord global et inclusif? Est-ce que l'Union africaine peut vraiment peser pour peut-être détendre l'atmosphère politique avant la tenue des élections?
Ils peuvent influencer, mais ils ne peuvent pas prendre décision, c'est clair. C'est-à-dire que on parle, comme on l'a fait remarquer le président de la République, Joseph Kabila, qui était au Congo-Brazzaville, et j'apprends sur ce plateau par notre confrère Moulunda que Étienne Tshisekedi serait aussi là-bas. Donc c'est dans le cadre de ces bons offices qu'on peut faire avancer les choses, mais de là à prendre des décisions fermes, je ne pense pas, ils ne sont pas en mesure. Les Congo restant un État souverain, ben, c'est comme cela.
Benoît Kambere, est-ce que vous pensez que l'Union africaine peut peser pour changer quand même d'atmosphère politique, pour amener une attitude politique assez apaisée avant la tenue des élections?
Ça me paraît un peu tard. Parce que, de un, l'Union africaine fait partie du CIAT, comité d'accompagnement de la transition. C'est vrai, bon, sa voix ne compte peut-être pas pour grand-chose dans cette Union africaine, mais le fait que ce soit maintenant Denis Sassou Nguesso qui soit à la tête de l'Union africaine...
Et qui connaît bien la République démocratique du Congo.
Naturellement, et qui connaît bien la République démocratique du Congo, et il faut le dire, qui a une expérience. Aujourd'hui, un monsieur comme Bernard Colella est rentré à Brazzaville, c'est pour dire que, quand même, c'était impensable à un moment. Bernard Colella, un des opposants du Congo, a tout fait pour rentrer, ça a posé des problèmes, mais le président Sassou Nguesso a saisi une occasion, le décès de la femme de Bernard Colella, pour lui tendre la perche, et Bernard Colella est rentré à Brazzaville. Il a pu trouver une solution, pourtant il y avait les ninjas, il y avait les gens du pool qui étaient en train de s'échauffer, parce que effectivement c'était un grand danger, mais que lui, et c'est vrai, il a une expérience plus grande que certains de nos dirigeants ici en République démocratique du Congo, eh bien, il a mis son expérience sur la balance, et on a pu arriver à 2 jours de la fin, avec les préalables et surtout les incompréhensions, enfin la mauvaise foi de certains dans l'entourage du chef de l'État, je ne pense pas qu'on puisse arriver à une solution à si peu. On a eu tout le temps. Parce que ce problème, quand le 30 juin 2005, On a commencé à poser des problèmes et quand le processus électoral a démarré précipitamment, parce qu'il faut, il faut pas qu'on se leurre, ce processus a démarré le 20 juin précipitamment, tout simplement à cause de la pression qui était autour du 30 juin 2005. Et on a vu précipitamment commencer les choses et déjà à l'époque, on a vu, il y aura pas de prolongation, on a prolongé l'enrôlement, il y aura pas de prolongation, on a prolongé le référendum, il y aura pas de prolongation, on a prolongé le dépôt de candidature. Et même là, les serments qu'on prend, non, il y aura plus de prolongation. Mais en fait, c'est quoi? C'est pour essayer de sauver les meubles. Mais ça me paraît tard. C'est vrai, Sassou Nguesso est un politique, il veut essayer, mais au point où on en est, des choses qu'on pouvait facilement résoudre il y a 6 mois, il y a 4 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois, maintenant, à 2 jours près, je ne vois pas comment cela peut être possible.
Pascal Mulunda, la presse a parlé d'une probable visite d'Étienne Tshisekedi également à Brazzaville à l'invitation du président Denis Sassou Nguesso qui avait d'abord envoyé son ministre des Affaires étrangères ici pendant le week-end. Mais qu'est-ce que cette rencontre, si Étienne Tshisekedi se rendait réellement là-bas, mais qu'est-ce que ça peut produire dans le processus actuel?
Bon, en tout cas, ça peut. Nous pensons que ça sera prometteur, dans la mesure où, dès lors que.
Il n'est pas tard, comme le dit Benoît Cambéré.
Il n'est pas tard pour mieux faire. Et vous savez que ce processus est malade de lenteur.
Mais qu'est-ce que, disons, cette rencontre entre le président Sassou Nguesso et Étienne Tshisekedi peut produire de concret pour les élections ici?
C'est la participation de l'UDP, c'est ça l'objectif.
Mais à deux jours de la clôture des candidatures?
On peut toujours trouver un intérêt d'attente, on peut toujours galvaniser les esprits. Oui, moi, je pense que... il faut quand même tenir compte des revendications de l'UDP. Mais comment voulez-vous aller aux élections avec la synonymie des partis politiques?
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais il y a des UDP. Vous savez que même nous, les intellectuels, admettons que les villageois ne puissent pas voter ou bien ne puissent pas avoir cette... Vous savez que même nous, quelque part, nous vous prêtez confusion. L'élection par liste. Mais quelque part, je vous dis, cette synonymie, il faut lever cet équivoque, c'est important. Mais quand Tshisekedi vous dit, non, je ne peux pas me participer avec ce genre d'entorse.
Voilà. Oui, avant de revenir à Benoît Cambéré, John Ngomba, est-ce que cette rencontre entre Tshisekedi et le président Denis Sassou Nguesso, si elle avait lieu, puisqu'on n'a pas encore la confirmation que ce voyage se fera réellement, parce que la presse en a parlé, est-ce qu'elle peut produire quelque chose?
Oui, je crois que c'est la rencontre de la dernière chance. Hein. Elle peut produire quelque chose dans la mesure où on est encore avant le dimanche. Alors il faudrait que le président Sassou Nguesso soit suffisamment convaincant et suffisamment rassurant. Parce que connaissant l'intransigeance du président de l'UDPS et la position exprimée par le président de la République, Joseph Kabila, au sortir de l'entretien avec le président Sassou.
Qui a dit quoi?
Qui a dit qu'on n'ouvrira plus les bureaux de vote, ainsi de suite, quoi. Donc rien n'avait changé. Donc il est probable.
Ces deux positions vraiment contraires.
Tout à fait contraire et même contradictoire. Et donc il est très probable que si telle est la position maintenue dans l'autre camp, eh bien que cette rencontre ne vaille même pas la peine parce que la montagne va probablement accoucher d'une souris.
Mais Benoît, oui, mais le président Sassou Nguesso avait insisté comme Kofi Annan, Jean-Marie Guénot, tout le monde a insisté sur l'inclusivité.
C'est tout ça justement. Et ça fait combien de temps qu'on insiste sur ça? Rien n'est fait. La réponse a été donnée par le chef de l'État au sortir de l'audience que lui a accordé le président.
Mais peut-être que l'entendement de l'inclusivité est perçu différemment, soit du côté de l'UDPS ou du côté du chef de l'État.
Je ne sais pas.
Ou de ces personnalités internationales qui parlent de l'inclusivité. Peut-être qu'ils ne parlent pas le même langage, on a l'impression.
Claude, au risque de te décevoir, tu as parlé de Kofi Annan qui est passé ici, Jean-Marie Guénot qui est passé ici. Thabo Mbeki qui est passé ici, Javier Solana qui est passé ici, mais tout le monde parle d'inclusivité. Personnellement, j'avais posé la question à monsieur Jean-Marie Guénot. Je me demande ce qu'ils appellent l'inclusivité. Que tout le monde vienne, mais on pose. Pascal a parlé d'un problème simple qui aurait pu être résolu. L'homonymie, mais c'est un problème simple. Si on voulait qu'on trouve une solution à ça, on aurait trouvé une solution. Il y a une DPS qui est antérieure à l'autre. On ne peut pas, et ça c'est la loi, on ne peut pas admettre un autre parti qui a le même sigle que l'UDPS. Et ça, c'est le ministre de l'Intérieur qui est du parti que vous connaissez. Enfin, alors, il y a l'ouverture des débuts. On aurait pu ouvrir, on a prétendu qu'on serait en retard. Maintenant, le retard est consommé. On aurait pu ouvrir pour 2 semaines seulement, dans certaines, dans les chefs-lieux des provinces, pour 2 semaines, ce problème aurait été résolu. De quoi on a peur? Moi, ça me rappelle un peu la Côte d'Ivoire avec Ouattara. Ouattara, apparemment, il fait peur. On ne veut pas, on veut qu'il soit là, on ne veut pas qu'il participe. Tout simplement quoi? La peur de perdre devant quelqu'un qui vaut plus que soi? Je me pose des questions.
Voilà, oui, John Gomba, vous êtes d'antenne, je le rappelle.
Oui, je voulais dire que il faudrait, peut-être, c'est mon opinion, que l'UDPS aussi fasse preuve de réalisme. Hein, parce que, visiblement, elle s'est mise, ou on l'a mise dans une situation où elle va être contrainte à ne pas participer aux élections.
Donc elle va s'auto-exclure.
Tout à fait. On va
s'auto-exclure, non.
On l'amène justement à se trouver dans une situation de ce genre.
On sait d'où vient ce mot, hein, auto-exclure.
Et pour faire de la politique réelle, excusez-moi, moi je ne me fais pas, moi, disons que je considère que quand l'objectif reste l'existence politique, il faudrait aussi que l'UDPS, si nous devons conclure ces entretiens de dernière minute, que l'UDPS essaie de voir où arrondir les angles. C'est vrai, il y a des positions, des négociations.
Mais comment arrondir alors qu'elle exige la réouverture de bureaux?
Vous savez, moi j'ai beaucoup apprécié, par exemple, la position du Palou, qui avait refusé de payer la caution de $50,000 pour le dépôt de la candidature d'Antoine Gizenga à la présidence de la République. Mais le Palou s'est rendu compte que c'était aussi un piège. Ils ont décidé de payer la caution de $50,000, mais en même temps, aujourd'hui, vendredi, la Cour suprême de justice a siégé sur la requête du Palou voulant démontrer l'inconstitutionnalité de cette caution. Et donc, sur les deux fronts, ils ont essayé de se battre. Entre-temps, Gizenga va sûrement être candidat confirmé parce qu'il va payer les 50 000, mais si jamais d'autre part...
Et il sera débouté par la Cour suprême.
Si jamais il parvenait à avoir gain de cause, enfin, bien ça leur permettra.
Ça m'étonnerait.
Donc, je dis qu'il faut aussi à l'UDPS être, disons, comme on dit, faire de la réelle politique, sinon on risque d'avoir des sérieux problèmes.
Voilà, création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. L'idée est du président de la conférence des évêques catholiques du Congo et archevêque de Kisangani, Monseigneur Mosengo Pasinya. Il a recommandé au secrétaire général des Nations Unies lors de son passage dans cette ville, dans le cadre de la visite effectuée par M. Kofi Annan en RDC il y a cela une semaine, pour Monseigneur Laurent Mosengo Pasinya, tous ceux qui ont commis des crimes en RDC avant et après 2002 doivent être jugés par une justice indépendante. Monseigneur Mosengo a été joint au téléphone par notre confrère Berry Luchaka.
En principe, chacun doit répondre de ses actes devant la justice, à condition naturellement que la justice ne soit pas une justice politique, mais une vraie justice indépendante, faisant partie de la séparation des pouvoirs dans un pays ou dans la communauté internationale. Si donc, comme nous venons de voir, une cour pénale internationale a été créée et qui n'a compétence que pour les crimes commis à partir de 2002, il ne serait pas juste que des crimes similaires qui ont été commis avant cette date dans notre pays ne soient pas jugés par un tribunal pénal international, disons une cour pénale internationale de même niveau et de même qualité.
Voilà, je reviens à vous, Pascal Moulunda. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Moniteur de Goma, au nord Kivu, mais vous êtes ce soir avec nous dans ce studio de la radio Kapia Kinshasa. Est-ce que vous vivez à l'intérieur du pays où ont été commis beaucoup d'exactions contre les populations congolaises? La CPI a été créée en juillet 2002, donc elle n'est pas compétente pour statuer sur les crimes qui ont été commis avant la date de sa création, c'est-à-dire avant juillet 2002. Mais est-ce que vous avez l'impression vraiment que la population congolaise qui vit notamment à l'est du pays a vraiment soif de justice, que les crimes commis avant cette date de 2002 soient punis?
La population vraiment en appelle de tout ce vœu, mais on se pose la question. Est-ce que Monseigneur Monsengo sera-t-il écouté? Une autre question, c'est celle de savoir qui va rester. Parce que même ceux qui sont acteurs politiques aujourd'hui, en tout cas la plupart, ils occupent des fonctions. Mais on s'est dit encore, est-ce que ce tribunal qu'on réclame ne sera-t-il pas instrumentalisé? Que ce soit au niveau du pays, même au niveau international. Et pourquoi avoir choisi ces moments? Est-ce que ça ne peut pas mettre en péril le processus ou la réconciliation?
Donc vous voulez dire qu'il faut d'abord aller aux élections et voir comment on pourrait punir les coupables après les élections, au risque de troubler le processus électoral. C'est ce que vous voulez nous dire?
D'abord les élections, parce que, en tout cas même la plupart, ceux qui sont au gouvernement, dans certaines institutions, pourraient d'une manière ou d'une autre être impliqués. Alors, si on commençait à intenter des procès à partir de maintenant, comment voulez-vous que le processus puisse aboutir?
Mais Kofi Annan a dit que les arrestations allaient se poursuivre pour toute personne qui a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide.
Heureusement qu'il n'a pas déterminé, qu'il n'a pas dit quand, en tout cas pour le moment, que ce soit au niveau de la communauté internationale, l'opinion nationale, d'abord les élections. Et les risques après.
Benoît Kambéré, je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la revue catholique Renaître. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, Monseigneur Monsengo, en appeler à la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo? Il y a un tribunal spécial pour la Sierra Leone où Charles Taylor, président du Libéria, mais sera jugé pour avoir participé, pour avoir aidé le RUF, la milice RUF, à commettre des exactions en Sierra Leone. Vous pensez que ce genre de tribunaux devrait être également mise en place ici en République démocratique du Congo pour punir les crimes commis avant juillet 2002?
Je me dis oui et non, parce que c'est quand même malheureux. C'est vrai, d'abord le moment, maintenant que Monseigneur Monsengo en appelle à TPI pour la RDC, ça me paraît tard d'abord, compte tenu du contexte.
C'est-à-dire?
Mais maintenant, la veille des élections, et quand on sait qu'il y a Tingi Tingi, il y a le camp Kapalata, il y a les Hutus rwandais qui ont été massacrés, il y a les Pygmées qui ont été bouffés comme brochettes, quand on sait que...
Des preuves pour Sénat, enfin, pour les Pygmées
Seulement pour les Pygmées, pour les autres Tingi Tingi, ça va, on peut passer. Enfin, bref, il y a eu tout ça, hein, c'est avant 2002. La Cour pénale internationale ne va là qu'à partir de juillet 2002, et tout ce qui s'est passé avant, on n'en parle pas. C'est vrai, tout le monde a applaudi, beaucoup de gens ont applaudi que la Cour pénale internationale s'est saisie de Thomas Lubanga, parce qu'elle l'avait dit ici, tout le monde le sait. Thomas Lubanga a dirigé l'Ituri pendant combien de temps? 8 mois. La crise de l'Ituri, c'est 5 ans. Il y a eu des gens avant lui. Et Thomas Lubanga l'a fait en réaction contre quoi? On ne se pose pas de questions. C'est vrai, ceux-là sont bien au chaud parce que ça s'est passé avant juillet 2002. On devrait se poser des questions. Mais encore une fois, ce que j'ai dit, non, c'est vrai, il faut combattre l'impunité. Mais est-ce que la justice congolaise ne pourrait pas faire ce travail? Est-ce que les magistrats congolais, s'ils sont bien payés, ne peuvent pas faire le travail qu'on demande à la...
Ils ne sont pas mis dans des bonnes conditions.
Et vous pensez... Mais naturellement, ils ne sont pas mis dans des bonnes conditions. Vous pensez que les magistrats de la Cour pénale internationale, s'ils étaient payés comme les magistrats congolais, ils feraient ce qu'ils sont en train de faire? Non, monsieur.
Mais est-ce que les crimes commis par les belligérants avant juillet 2002 ne dépassent pas les compétences de nos magistrats ici, par exemple les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le crime de génocide?
C'est juste une convention. Vous pensez que les magistrats congolais sont incapables de faire du bon travail? Ce n'est pas mon avis. Les magistrats congolais sont très mal payés. Les magistrats congolais sont, ils sont caporalisés. Tout à l'heure, on a parlé de la Cour suprême, qu'elle va rendre un verdict aujourd'hui. Tout le monde sait quel est le verdict qui sera rendu. Tout simplement parce qu'on sait de quel côté elle est rangée. Et ça, c'est dommage. Et Monseigneur Monsengo l'a dit. Malheureusement, on n'a pas un pouvoir judiciaire qui est troisième pouvoir, qui peut faire tête à tous ces gens qui, malheureusement, se présentent aux élections, ils sont en train de violer la loi, ils n'ont pas démissionné, ils sont en train, en même temps candidats et travaillent encore, qui sont en train de piller les caisses de l'État. Et avec cet argent, ils vont payer la caution.
On est presque à la fin de cette émission. John Gomba, je rappelle que vous êtes journaliste au sein d'Antenne A, une chaîne de télévision privée de Kinshasa. Est-ce que vous avez l'impression que quand la Cour pénale internationale se dit incompétente pour les crimes commis avant juillet 2002, elle ressemble peut-être à une blanchisserie pour les actuels belligérants qui ont, pour certains, ils ont commis des crimes avant juillet 2002. Est-ce que ça a l'air d'être une blanchisserie pour la Cour pénale internationale? Ils se disent, ouf, tous les crimes qu'on a commis avant ne seront pas punis.
Oui, involontairement la CPI, et là c'est cela, ce qui explique à mon avis la pertinence d'un TPI, d'un tribunal pénal international sur la RDC, qui pourra permettre alors de quadriller tout ce qui a été perpétré comme crime ici, au-delà des délais, du délai par exemple de la CPI, ce qui pourra permettre que justice soit faite, parce que ici, la justice marche avec l'équité, marche avec l'égalité. On ne peut pas faire une justice à plusieurs vitesses, hein, parce que malheureusement, c'est à cela qu'on risque d'aboutir avec la CPI qui est limitée dans le temps. Donc, s'il y a un tribunal pénal intervenant sur la RDC, je pense que c'est une bonne chose. Comme ça permettra de pouvoir remonter aussi longtemps, aussi loin qu'on pourra, pour que tout ce qui a été causé comme crime soit quand même payé. Et dans la foulée, quand même, je pense que ceci aussi est une interrogation pour la justice congolaise, qu'il faut réhabiliter aussi le plus rapidement possible.
Oui, dernier mot, Pascal Mulunda.
Oui, j'allais dire que il faut que nous soyons respectueux des textes. Donc, l'article 10 de la loi électorale, donc, on aligne même, donc c'est pourquoi j'éprouve l'idée de Benoît Cambéry. Il fallait qu'on le fasse avant. On aligne les personnalités qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Bon, heureusement que nous espérons, nous comptons sur l'indépendance de, entre guillemets, cette cour suprême. Parce que la plupart des gens qui ont commis des exactions sont en train d'être enregistrés comme candidats un peu partout.
Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre que
on les invalide.
Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre que la population puisse les sanctionner à travers les élections?
Et pourquoi la Cour suprême ne peut pas
les invalider?
Parce que c'est elle qui est habilitée.
Voilà, fin de la tribune de la presse de ce vendredi 31 mars 2006, la dernière tribune de la presse de ce mois de mars. Nous avions avec nous trois confrères pour analyser quelques faits importants de l'actualité de la semaine. Nous avions avec nous Pascal Mulunda, éditeur du journal Le Moniteur de Goma au Nord Kivu, mais qui était avec nous dans ce studio, Benoît Cambéré, journaliste à la revue Catholique Renaître, et John Gomboy, journaliste d'Antenna, une chaîne de télévision privée de Kinshasa. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.radiocapi.net et les rediffuser non pas à 4h45 heures de Kinshasa comme c'est le cas du lundi à vendredi pour toutes les émissions Dialogue entre Congolais, mais les rediffuser le samedi à 5h30 heures de Kinshasa. Bon week-end et à lundi prochain.